Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, n'hésite pas à mettre tout simplement 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de le faire qu'une seule fois et après, c'est bon. Et autrement, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. C'est un canal privé où je partage tous les dessous de mon business et mes pensées au jour le jour. Et tu peux même échanger avec moi-même. Donc, si tu es partant pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas un entrepreneur? Beaucoup de personnes pensent que l'entrepreneuriat, c'est mettre sur son Instagram CEO. Alors, ça serait bien beau si c'était ça. Ça serait bien beau si ça faisait gagner de l'argent, mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, 99% des gens qui pensent être entrepreneurs ne le sont pas. Et pour être totalement transparent, il y a jusqu'à quelques années, je ne l'étais pas non plus. En fait, beaucoup de personnes n'ont pas cette bonne vision de l'entrepreneuriat. Et ce podcast m'est venu après une discussion que j'ai eue avec des gens dans le Telegram. Et j'adore nos discussions et c'est intéressant. Mais c'est là où je vois qu'il y a une vision qui est troublée. C'est qu'en fait, les personnes confondent savoir et savoir-faire. Ça n'a rien à voir. Tout le monde sait comment une fusée part dans l'espace. Tout le monde le sait. Qui, aujourd'hui, peut envoyer une fusée dans l'espace? Et je parle même pas du budget. Imaginons, vous avez budget limité. Personne ne peut le faire techniquement. Parce que, oui, vous savez comment une fusée part, une fusée s'envole, etc. Mais vous ne savez pas comment le faire. Et ça, c'est différent. Et beaucoup de personnes pensent que être entrepreneur, c'est savoir. Non. Être entrepreneur, les amis, c'est savoir-faire. Et donc, ce n'est pas parce que... Voilà, par exemple, le meilleur exemple que je prends à chaque fois par rapport au basket, c'est moi, je joue extrêmement bien au basket. C'est-à-dire qu'en France, j'étais en région, etc. Et j'ai fait en pré-national, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais je sais qu'ils ont tout changé. Mais bref, donc j'ai joué à très très haut niveau, d'accord? En amateur, évidemment. Donc je sais comment jouer au basket. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ici, quand je vais faire sur des terrains en pick-up, je froisse tout le monde, même des Américains, alors qu'à la base, moi, je pensais qu'ils allaient me défoncer. Non, je les déboîte. Est-ce que je peux jouer en NBA? Bah non, évidemment que non. J'ai pas du tout le niveau, mais alors à des années-lumière, j'ai pas ce niveau-là. Et donc, vous voyez cette différence entre je sais, mais je sais jouer au basket, je sais comment, donc je sais faire le fait de jouer au basket, je sais comment jouer au basket. Par contre, je sais absolument pas comment jouer à ce niveau-là. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est-à-dire que oui, vous savez faire un post Instagram. Bravo, tout le monde sait le faire. Mais est-ce que vous savez faire un post Instagram qui engage? Est-ce que vous savez faire un post Instagram qui va aller chercher l'émotionnel de la personne, la psychologie de la personne, pour pouvoir derrière travailler tout simplement le fait d'activer en lui un call to action? Là déjà, c'est pas la même chose. Et donc en fait, beaucoup de personnes confondent « Ah, j'ai vu ça dans une vidéo YouTube, donc je sais. Ah, je sais faire. » Et c'est malheureux parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'école. Et beaucoup de personnes, quand ils pensent comme ça, sont encore matrixées par l'école. Comment on a appris l'école, qui est tout simplement « Ah, bah tu dois tout simplement savoir tes cours, réciter, etc. » Ok, mais ce n'est pas ça la vie. La vie, ça serait si c'était celui qui en savait le plus, qui gagnait le plus d'argent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça ne sert même plus à rien d'apprendre puisqu'on a quelque chose à portée de doigt qui est à la base les smartphones, mais encore plus aujourd'hui qui sont les moteurs de recherche et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça ne sert à rien d'apprendre. Alors, moi, je pense qu'il y aura toujours des trucs qui seront intéressants d'apprendre. C'est-à-dire que moi, je suis content d'avoir appris deux autres langues, en plus du français, donc l'espagnol et l'anglais. Je suis content parce que oui, un jour, je sais très bien qu'il y aura des outils, ça existe déjà avant d'ailleurs, mais il y aura des outils où je parle et ça traduit en direct. Je sais très bien que ça va exister avec le dubbing, etc. Sauf que je peux vous assurer que ça va mettre vraiment du temps avant de capter les expressions, les petits mots, etc. Par exemple, ma copine, elle a appris le français avec moi. Donc, elle reprend toutes mes expressions. Quand elle parle, on dirait que c'est un clone de moi parce qu'elle reprend toutes mes expressions. Et forcément, ça, tu ne peux pas l'enlever. Il y a aussi les accents, les tonalités, etc. Donc, ça va être très, très compliqué avant que ça arrive. Et attention, je ne dis pas que ça ne va jamais arriver. Je pense que ça va arriver. Mais en attendant, c'est tellement important. Tu connectes tellement plus avec les personnes quand en fait, tu fais des blagues, etc. Et moi, c'est ce que j'adore faire, par exemple, en espagnol ou en anglais. J'ai ma personnalité. Et donc, forcément, ça me permet d'avoir mon côté à moi. Et le truc, c'est que je sais l'espagnol. Je l'ai appris à l'école, mais je ne savais pas le parler. Ce qui s'est passé pour que je le parle, c'est qu'en 2019, pour ceux qui me suivaient sur Telegram, je me suis fixé un défi de pendant 500 jours, je vais apprendre tous les jours l'espagnol sur Duolingo. Alors, certains diront que Duolingo, c'est pas bien, certains diront que c'est génial. Moi, je trouve ça très bien, c'est convenient. Donc, c'est-à-dire que c'est très pratique et c'est plutôt pas mal. Et en fait, le truc, c'est que j'ai appris tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais en plus, comment on dit ? Je travaillais, je pratiquais, c'est mieux. Je pratiquais pour m'entraîner. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence entre, pour revenir à l'entrepreneuriat, entre quelqu'un qui est bon entrepreneur et quelqu'un qui ne l'est pas. Et le savoir, ça n'a rien à voir. C'est, est-ce que tu sais le faire ? Est-ce que tu l'as déjà fait ? Et je peux t'assurer que ça n'a rien à voir. Et je vais donner plein d'exemples pour comprendre. En fait, cette discussion est partie du fait que je disais, oui, est-ce que ça vous intéresserait si nous, notre équipe, on s'occupe de vous et on vous fasse créer votre offre ? Donc, on vous fasse une offre en carré, etc., etc., etc. Et la personne, une des personnes du groupe m'a dit, bah oui, mais tu devrais le faire juste en pourcentage. Et je lui ai dit, ok, j'entends ton point, mais pourquoi ? Et il m'a dit, bah tout simplement, si tu crois tellement à ton offre, tu devrais le faire. Et il a raison. Pour le coup, il a raison, mais il a tort à la fois. J'explique ma vision. En fait, il a raison dans le sens où les personnes qui veulent avoir une offre en or devraient tous proposer cette offre-là. C'est-à-dire que bah, tu me payes en fonction de tes résultats. Comme ça, tu es sûr que je fasse un bon travail parce que meilleur mon travail est, meilleur tes résultats seront et donc meilleure ma rémunération sera. Et il a raison. Sauf que ce qu'il oublie, c'est que j'ai beau demain créer la meilleure offre possible pour quelqu'un, s'il ne sait pas la mettre en place et la vendre, bah, en fait, ça va flopper. Et c'est pour ça que c'est totalement différent. Et donc, oui, il a raison dans un cas, mais il a tort dans un autre. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette offre, ce schéma d'offre, ne peut pas se répliquer sur tout le monde. Pour faire ce schéma d'offre, il faut que tu es sûr d'avoir des gens qui ont déjà gagné de l'argent. Parce que tu es sûr que les gens savent comment faire. Tu es sûr que les gens savent comment mettre en place un business, récupérer de l'argent, etc. Et je peux vous assurer que cette stratégie, bah, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas fait pour tout le monde. Et certaines personnes n'y arriveront jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois apprendre et tu dois comprendre quels sont les leviers qui font que tu vas faire gagner de l'argent. Et on a tous débuté à zéro, d'accord ? Tout débuté à zéro, c'est quoi le plus dur ? C'est de faire notre 15e vente ou c'est de faire notre première vente ? Ah, moi, personnellement, je m'en souviens très bien, c'est de faire la première vente. La première vente, c'est tellement dur, mais c'est tellement dur. La toute première vente, elle est extrêmement dure. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ne comprennent pas ça. Ces personnes-là ne comprennent pas que faire une vente, c'est compliqué. Comprendre ce qui déclenche l'acte d'achat chez un client est compliqué. Et donc, ces personnes ne comprendront pas que, oui, demain, je peux faire pour tous mes clients. Je peux arrêter de faire de la formation si je veux et je fais juste des produits avec du pourcentage. Mais combien réussiront vraiment ? Combien me paieront vraiment ? Il y a tellement plein de possibilités que ça foire. Que pourquoi est-ce que moi, je mettrais à risque plutôt mes compétences pour quelque chose qui n'est pas sûr. Donc, c'est vrai que beaucoup d'entreprises, comme tu peux voir, font un fixe et font un pourcentage. Et donc, dans ce cas-là, c'est intéressant parce que ça te permet tout simplement d'avoir ce genre de setup qui permet d'avoir un gagnant-gagnant. Le fixe, tu es sûr que le mec, il est payé. Et le pourcentage, bah, le mec, tu es sûr qu'il va bien travailler. Donc, c'est intéressant. Après, moi, je suis d'accord que pour certains clients, faire que du pourcentage, ça vaut largement le coup. Moi, je travaille avec des partenaires sur le marché américain. On travaille qu'en pourcentage parce que je sais que les mecs ont intérêt à bien bosser parce qu'ils savent qu'ils seront payés. Et ça, c'est très, très, très important. Et donc, en fait, tant qu'on ne vit pas, tant qu'on ne crée pas, en gros, de la richesse, on n'est pas un entrepreneur. Et surtout, entrepreneur, c'est pour revenir à cette idée, c'est bah, par exemple, je crée une offre. Comment est-ce que tu vas gérer quand tu vas faire un lancement et que je te dis une bêtise, mais YouTube va tomber ou tes emails vont tomber, c'est-à-dire que le serveur va se casser la gueule. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vois, c'est ça être entrepreneur, c'est-à-dire c'est comment tu vas réagir aux situations qui t'arrivent. Comment est-ce que tu vas penser ? Pour ceux qui m'ont suivi pendant Heroes of Arcane, comment est-ce que j'ai réagi quand je sors pour manger un sandwich la veille, donc 10 heures avant un drop NFT et que je vois que je suis bloqué de partout. Comment est-ce que je réagis ? Et c'est là, en fait, où tu dis entrepreneur. Entrepreneur, c'est pas en mettant Instagram sur son Instagram CEO, c'est pas en allant dans des beaux hôtels et tout. Ça, c'est pas être entrepreneur. Ça, c'est avoir les répercussions d'un entrepreneur. Mais avant ça, il faut que t'en chies. Hein. Ça, je te le dis. Et Moi, c'est ça le truc. C'est comment tu gères. Et par exemple, Heroes of Arcane, moi, comment j'ai géré? Au début, j'ai géré comme n'importe quel humain. J'ai fait, bon, bah, je ferme le projet, j'abandonne. Bah, ça sert à rien. Mais faut s'imaginer à ma place, quoi. Genre, j'arrive, j'ai plus accès à rien. J'ai plus accès à mon propre projet où j'ai dépensé des centaines de milliers d'euros. Bah, j'ai fait, bah merci, au revoir, quoi. Merci, au revoir. Et donc, forcément, ça te change toute ta vie, quoi. Ça te change toute ta vision de la vie, ça te change toute ta vision des choses. Et c'est super important, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai pris le temps pour moi. J'avais mangé mon sandwich. Alors, j'avais pas très faim, mais j'avais mangé mon sandwich. J'ai pris le temps pour moi. Je me suis posé. Et derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rattaqué comme entrepreneur. Et au final, bah, on a récupéré tout. Et on a tout simplement mis en place la suite, quoi. Et le jeu est sorti et tout s'est bien passé. Alors, est-ce que ça serait passé comme je l'idéalisais à la base? Non, pas du tout. Mais c'est ça, être entrepreneur. C'est-à-dire que être entrepreneur, pour moi, c'est tout ce que tu imagines qui va bien se passer, ça se passera pas comme ça. J'ai jamais eu une situation où j'avais bien anticipé ce qui allait se passer. Il y a tellement de trucs où t'as pas pensé. Oh, mais t'as une lettre des impôts qui te dit qu'il faut payer ses impôts sur retard, etc. Ah, mais attends, mais j'avais pas provisionné parce que quand j'ai fait mes comptes, j'avais pas pris ça en compte, etc. Ou à l'inverse, hein, t'as les impôts qui te disent, ah bah tiens, on t'a remboursé l'argent. Ça, c'est pas mal quand ça arrive. Ça m'est arrivé l'année dernière. L'année dernière, j'avais payé, je crois, je sais plus combien d'impôts. Et j'ai eu un virement de l'ARS, hein, donc c'est je sais pas comment dire en français, mais la Cour des comptes. Bref, c'est le bureau des impôts, quoi. Qui me renvoie un chèque de 5 000. C'est bien ça, c'est bien, j'aime bien. J'aime bien, hein, 5 000, c'est cool. Et c'est plein de trucs comme ça, quoi. Donc ça, c'est dans le bon sens, mais il y a plein de trucs en fait auxquels tu vas pas pouvoir penser, réfléchir et te dire putain, mais je m'y attendais pas. Et en fait, tout ça vient d'expérience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je lance plus du tout mes produits, mes offres, etc., comme j'ai lancé il y a 5 ans. Parce que en fait, j'ai pris tellement d'expérience sur ce qui peut mal se passer ou ce qui peut bien se passer, que je connais en fait tous les checkpoints où je me dis, ah là ça pue, là ça va être compliqué. Attention, je les connais tous, je sais qu'est-ce qui peut se passer. Je sais que si je dis à mon équipe la veille alors qu'on a le lancement le lendemain, il y a de fortes chances que tout se passe mal. Donc maintenant, je mets quelque chose en amont pour qu'on ait plus de temps. Et y a plein de choses qu'on apprend en faisant. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que le savoir est égal au savoir-faire. Et par exemple, je fais la passerelle en ce moment, les cryptos, on sait que c'est chaud, etc., etc. Donc tout le monde kiffe parce que ça remonte, etc. Tout le monde est... Et d'ailleurs, j'en parlais avec un ami hier. C'est assez drôle parce que les cryptos, en ce moment, tout le monde est un bon trader. Et tout le monde était extrêmement bon pendant l'autre bull market. Mais c'est pas ça, en fait, être bon dans les cryptos. Être bon dans les cryptos, c'est quand tout le monde mange le sable, est-ce que toi, tu es là? Est-ce que toi, tu fais le travail? Parce que moi, je te le dis, moi, je le fais le travail. C'est-à-dire que moi, même quand le marché était cassé, était vraiment à la ramasse totale avec un bitcoin à 15 000, à 20 000, bah moi, ce que je faisais, c'est que j'investissais, je continuais à faire des profits. C'est là où tu es bon. Et moi, encore une fois, je m'estime pas comme être un expert en crypto. J'ai juste des bonnes bases, des très, très, très bonnes bases, et je les mets à profit. Mais c'est là, en fait, où tu fais la différence entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est très mauvais. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas que c'est pas parce que tu as acheté ton bitcoin à 40 000 et qui maintenant il est à 63 000 que tu es un bon trader. C'est peut-être que tu as eu de la chance, c'est peut-être que tu as eu du timing. C'est ça la différence. En gros, c'est quelqu'un qui est bon, c'est est-ce que dans la difficulté il rayonne encore? Si oui, là oui, ok, t'es bon. Et moi, je vois par exemple certaines discussions sur les discords de projets français, notamment Heroes of Arcane, mais pas que, sur plein d'autres projets. Et je vois les gens, comment ils parlent de la crypto, je me dis mais ces gens-là, jamais ils gagneront. Jamais ils comprendront ce que c'est. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est, là je fais une petite digression, mais pour comprendre, c'est que en investissement, le moins tu bouges, le plus tu gagnes d'argent. Donc, tous les singes sous cocaïne, sous crypto, qui ouvrent leur wallet toutes les 5 minutes pour voir s'ils ont fait plus 3% ou moins 3% et qui commencent à paniquer, ne comprennent pas en fait que le moins de mouvement tu feras, le plus tu gagneras de l'argent. Là, moi, j'ai pas fait un achat sur des grosses cryptos. Moi, j'ai fait que des petits récemment, j'ai fait du farming, etc. Mais j'ai pas fait un vrai achat massif sur des grosses cryptos récemment. Par contre, je take le profit en fait de ce que j'avais compound depuis 2021, depuis 2022. Et donc, j'ai pris un petit chèque sympa, très, très, très sympa. Et en fait, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que pendant 3 ans, j'ai rien touché. J'ai mis mes stratégies en place pour gagner encore plus, parce que j'ai fait du stacking, du farming, etc. Et donc, ça a fait une énorme différence. Et la patience est la maître des vertus, ou la maîtresse des vertus, je crois. Mais en investissement, la patience, c'est le roi. Et sur les projets français, donc, je me baladais et je regardais un peu ce que les gens disaient. Mais les gens, comment ils parlent des cryptos, je me dis, mais ils vont se faire déglinguer encore. Les gens qui disent, oui, j'ai pas bien misé, j'ai pas misé sur le bon cheval, j'aurais dû parier sur cette meilleure crypto. Mais je dis, mais leur vocabulaire montre à quel point ils sont ignorants et à quel point ils vont se faire éclater. Parce que quand tu penses que la crypto, c'est un peu comme le casino, avec les mots miser, parier, etc., c'est que tu ne comprends pas que la crypto, c'est un investissement et que, en fait, le but d'un investissement, c'est de te faire gagner de l'argent. Oui, évidemment, le risque zéro n'existe pas, on connaît tous cet adage. Mais évidemment, personne ne veut. Si demain je te dis, j'ai une opportunité en or, tu vas mettre de l'argent, mais tu vas retirer zéro, genre même pas un centime, zéro. Bah, tu dis, bah non merci, je ne suis pas intéressé, ce qui est normal. Et en fait, beaucoup de personnes pensent que c'est de la faute du marché, mais non, c'est aussi de la faute de l'investisseur. Et encore une fois, je fais cette relation et son pont entre les deux, c'est que ces personnes-là, dans leur tête, je suis sûr qu'elles pensent que ce sont des investisseurs crypto. Mais non, ce n'est pas parce qu'ils investissent en crypto que ce sont des investisseurs crypto. Un investisseur crypto comme un entrepreneur, c'est dans les moments durs, dans les moments forts, comment il montre, comment il est là, il est présent. Et c'est pareil, un entrepreneur, ce n'est pas parce qu'il a assisté à une conférence qu'il sait exactement tout faire. Faut faire. Parce que je peux t'assurer que si je te dis demain pour faire une vidéo qui est virale sur YouTube, tu vas tout faire, tu vas faire A, B, C, D, E, F, G, tu vas me dire, bon, ok, je sais faire, ok, maintenant fais-le. Bah, tu vas voir que tu vas te retrouver devant ta feuille, devant ton PC, et tu vas dire, putain, mais qu'est-ce que je fais, quoi. Et le plus simple, et c'est ce que beaucoup de monde font, et c'est ce que moi je faisais à la base, c'est que comme tu ne sais pas faire, tu vas aller copier, en pensant que bah, ça va te rassurer en faisant à peu près exactement pareil. Sauf qu'en fait, tu vas copier exactement le contenu sans comprendre la stratégie derrière. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes se confondent entre eux, faire et savoir-faire, et plutôt savoir et savoir-faire. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui que tu te poses, et c'est ok en fait de ne pas savoir-faire, c'est ok de ne pas te sentir entrepreneur encore une fois, c'est le travail, c'est la répétition, c'est tout ça qui va faire qu'à un moment tu le seras. Mais aujourd'hui c'est ok de ne pas l'être, tu n'as pas à t'en vouloir en fait, ça fait partie de ton chemin. C'est-à-dire que beaucoup de personnes voient l'entrepreneuriat comme juste « ah, je veux gagner tant », personne ne voit comme « j'aimerais apprendre ça, j'aimerais savoir faire ça ». Et malheureusement, le savoir, c'est ce qui va te rapporter beaucoup plus. Parce que le savoir, faire des erreurs, et on en parle souvent, j'en parle souvent, personne, et surtout en France, on n'aime pas faire les erreurs. On n'aime pas, c'est pas bien parce qu'on a grandi, avec l'école notamment, comme l'erreur, c'est mal. Tu t'es loupé sur ta dictée, tiens, zéro, ah, gros zéro en rouge dégueulasse là, zéro, ah, 3 sur 20. Ok, mais comment je peux m'améliorer ? Qu'est-ce que je peux faire pour progresser ? Et en fait, les gens ne comprennent pas que te tromper aujourd'hui, c'est du feedback. C'est du feedback de la réalité. C'est la réalité qui te dit, là, t'es pas bon. T'es pas bon. Donc, c'est génial parce que si tu t'étais pas trompé, tu aurais sûrement vendu sans comprendre ce qui marche ou ce qui n'a pas marché. Et donc, le fait que ça ne marche pas, c'est chiant, c'est dur. Attention, je vais pas remettre ça en cause. C'est tellement dur quand tu as mis trop d'efforts, que tu as travaillé et que ça ne marche pas. Ça fait mal au plus profond. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu as un feedback de la vie qui te dit « là, c'est pas bon, mon gars ». Donc, tu vas retravailler, tu vas te poser les bonnes questions et comprendre. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, tu auras ça dans ta mémoire, en data, pour te dire « ça, tu vois, on a fait comme ça, c'était pas bon du tout ». Donc, justement, on va changer. Et il y a un truc aussi que les Américains disent souvent, c'est… Alors, ça arrive maintenant en France, mais si vous le voyez, pensez à moi et n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, ça me fera marrer. Mais c'est… Oui, il faut que tu sois 1% meilleur chaque jour, comme ça à la fin de l'année tu seras 37 fois meilleur. Alors d'accord, sur le papier c'est bien, c'est ce que j'appelle de la branlette intellectuelle, mais comment est-ce que techniquement tu arrives à quantifier que tu es 1% meilleur? Comment est-ce que tu sais que c'est pas 0,8 ou 3% meilleur de la journée? Enfin c'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire ces genres de trucs, c'est un peu pour moi du branlage intellectuel qu'on voit sur les trucs de motivation américains et qui arrivent en France comme d'habitude. Mais pour moi, en fait, c'est pas de la data. Ça, c'est pas de la data, c'est du ressenti. C'est oui, j'ai progressé. Mais par contre, à chaque fois, tu vois, c'est si ta première offre, tu veux progresser, ta première offre, tu fais une offre. Tu dis, ok, il y a ça dedans. Deuxième offre, tu dis, ok, est-ce que je peux pas rajouter un truc en plus, tu vois? Et là, tu progresses, c'est en faisant ça. Ou à l'inverse, est-ce que je peux pas retirer un truc en plus qui va rendre l'offre plus simple, plus cohérente? Est-ce que je ne peux pas rajouter une meilleure garantie? Est-ce que je ne peux pas rajouter un bonus? Comment je peux compléter mon offre? Tu vois, et en faisant ce genre de petite action comme ça, là oui, tu vas progresser parce que c'est tangible. Ce n'est pas « oui, progresse 1% tous les jours ». Non, non, ça, ce n'est pas tangible. Ce qui est tangible, c'est « ok, j'ai retravaillé mon offre, il y a ça qui va, il y a ça qui ne va pas. Comment je peux la faire meilleure? Comment je peux devenir meilleur ?» Et c'est là en fait où tu vas progresser. C'est là où tu vas devenir bon. Mais encore une fois, je pense que tu as vu par tous mes exemples, que ce soit en crypto, en business, il faut faire, il faut faire. Il faut faire. D'après toi, pourquoi quand tu vas apprendre à conduire, on te fait conduire? Alors c'est en conduite assistée. Conduite accompagnée, pardon. Mais après, tu as tes leçons. Tu as d'abord le code, donc la théorie, et après, tu as la pratique. Mais si tu merdes ta pratique, bah, tu n'as pas ton permis. Eh bien, c'est pareil en entrepreneuriat. Si tu merdes ta pratique, même si tu connais toute la théorie par cœur, hein. Moi, je connais des gens qui ont eu zéro faute à l'examen et qui ont mis 5 fois avant d'avoir le permis. Pourquoi? Parce que la pratique, c'est différent de la théorie. Et c'est pas parce que tu sais tout sans papier que tu sais comment conduire une voiture. Et c'est pareil, c'est pas parce que tu sais toutes les stratégies de business que tu sais les mettre en place. Et je te parle de tout ça parce que j'ai un de mes élèves qui me suit depuis très longtemps. Je crois qu'il a commencé à me suivre quand il avait 15 ans. Et je sais qu'il écoute les podcasts. Donc, si tu écoutes ça, félicitations à toi. Je suis très, très fier de ton évolution. Mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui était jeune. Hein. Il a la vingtaine, début de vingtaine même. Et il était un peu perdu. Et en gros, il pensait qu'il savait. Parce qu'il avait eu un petit succès, etc. Il pensait qu'il savait. Et on a commencé à bosser ensemble. Moi, j'ai commencé à le prendre sous mon aile, à le coacher, etc. Et je lui ai tout expliqué. Et là, il a vu, parce qu'on a bossé aussi ensemble sur notre projet, il a vu la discipline qu'il faut pour bosser. Et moi, je lui ai dit, je fais, t'es pas au niveau. Et ça peut paraître méchant, mais pour moi, c'est pas méchant. Il était pas au niveau à ce moment-là. Et c'est OK, en fait. C'est OK parce qu'il a appris, il s'est pris des soufflantes par moi, mais aussi par la vie, par le business, par les résultats. Il a vu, en fait, que tu ne pouvais pas... Alors, c'était pas le cas, hein. Il n'était pas du tout comme ça, mais tu ne peux pas être un branleur en fait quand tu es en business. Il était loin d'être comme ça. Pour moi, je pense qu'il y avait plus de l'inexpérience. Mais il ne comprenait pas la discipline que ça demandait d'avoir des business qui tournent. Et quand on en a un, c'est déjà très bien, mais moi en plus, j'en ai plusieurs. Donc, c'est une énorme discipline qu'il faut se mettre à soi-même. Et en fait, il ne comprenait pas ça. Et il l'a appris en faisant. Et aujourd'hui, je suis son évolution, on se parle très fréquemment. Et il m'a expliqué comment il a évolué. Putain, mais je suis trop fier de lui. Parce qu'il a compris. Et par exemple, il a compris ce que c'est être un entrepreneur. Par exemple, il voulait faire un système de lancement. Alors, je ne vais pas en parler comment il a fait, parce que ça reste secret. Mais il voulait faire un truc. Et de lui-même, sans même que je lui dise, il allait s'inscrire dans des lancements similaires aux États-Unis, en France, etc. pour comprendre ce qui se passait derrière. Et je lui ai dit, tu vois, là, tu es en train de passer de « tu as gagné de l'argent sur Internet » à « tu deviens entrepreneur ». Parce que tu essayes de comprendre la structure, la stratégie, qu'est-ce qui se passe derrière et comment toi, tu pourrais l'apporter chez toi en faisant la même chose. Et alors, certains diront, il copie juste. Non, c'est pas de la copie. La copie, tout le monde peut le faire. Non, il va directement à la source en tant que client pour comprendre comment ça se passe. Pour un, améliorer son expérience client et de deux, permettre de l'adapter. Okay, et de se dire, ok, il y a ça qui s'est passé, j'ai pas trop aimé, je pense qu'on peut l'améliorer en faisant ça à la place. Et ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Et donc, au final, ça lui permet à lui de comprendre et de mettre en place en fait une stratégie qui va pouvoir le faire. Mais le fait que de lui-même, il comprenne qu'il a quelque chose qui va pas, qu'il va essayer de progresser et qu'il mette en place des choses en faisant, parce que en tant que... Alors là, il passe de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'il devient un client, mais en faisant comme ça, ça lui permet tout simplement de comprendre ce qui marche, de comprendre ce qui ne marche pas et surtout de le répliquer. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas cet adage qui est tellement important. N'écoutez pas ce que je dis, regardez ce que je fais, s'il vous plaît. C'est-à-dire que sur Internet, tout le monde vous dit n'importe quoi. Tout le monde. Moi, par exemple, je vous parle de communauté, je vous parle d'être là, présent, etc. Est-ce que vous pouvez me citer beaucoup de personnes qui vont répondre à tous les commentaires? Moi, je le fais. Je le fais que ce soit par moi ou par mon équipe parce que c'est important pour moi. Et je le dis, mais je le fais aussi. Quand je dis des choses comme « la France, c'est de la merde », ouais, mais je me suis barré. Donc moi, ça me fait marrer. Hein, toutes les chaînes YouTube en France, qui certaines me font bien marrer, où ils expliquent ce qui se passe un peu en clashant un peu la France. Mais les gars, vous filmez depuis Lyon ou Paris, quoi. Enfin, quelle est votre légitimité? Quelle est votre légitimité? Et en fait, c'est intéressant. C'est... Si tu es un entrepreneur, n'écoute pas ce que les gens disent. Regarde ce que les gens font. Ok ? Ça fait une vraie différence et c'est plutôt intéressant. Beaucoup de personnes sur Internet, et vous savez de qui je parle, hein, des tocards à Dubaï, déjà le monde est petit, c'est-à-dire que tout le monde se connaît, même si certains prétendent ne pas se connaître, ne pas connaître, etc. Tout le monde se connaît et tout le monde connaît les backstories de tout le monde. Moi, j'ai des dossiers sur tout le monde et je sais qui est fiable et qui ne l'est pas, d'accord ? Donc, c'est pas parce que tu vois un mec avec une Lamborghini ou avec un cigare à Dubaï que le mec est fiable. En général, c'est le contraire. En général, c'est le contraire. Alors, je sais qu'ils vendent la prestance, ils vendent le prestige, ils vendent un statut de mal alpha, mon cul. Mais, ok, mais en général, hein, c'est très simple. 90% du temps, parce qu'il y a des exceptions, mais 90% du temps, un mec avec une Lamborghini à Dubaï, qui en plus, tu le vois fumer des cigares, parce que c'est la nouvelle mode maintenant, les cigares, ça me fait marrer. C'est comme Lamborghini est en train de se faire remplacer petit à petit par Rolls-Royce. Ça pue, d'accord ? Et moi, je veux pas prêcher par ma paroisse, mais moi, en fait, c'est ce que j'expliquais sur Instagram hier, c'est que moi, en tant qu'entrepreneur et même en tant qu'humain, je me définis pas par ce que j'ai. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai des commentaires parfois sur YouTube qui me disent « Mais de quoi tu me parles ? T'es dans ton studio, et tu dors sur ton canapé qui est derrière. » Je fais « Ah, petit enfant, si tu savais. » En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne me définis pas par ce que j'ai en tant que richesse. Pour moi, je suis quelqu'un de très minimaliste. D'ailleurs, ma copine, la première fois qu'elle est venue chez moi, elle fait « Ah ouais, la déco, ouais. » C'est-à-dire que moi, il n'y a pas un cadre au mur, tout est blanc, c'est très simple, et j'ai trois cadres photos avec ma famille, et c'est tout, quoi. Moi, je m'en fous. C'est-à-dire que moi, je vais avoir le moins de comment on appelle ça ? Je vais avoir le moins de possession personnelle, parce que je suis quelqu'un qui est toujours en train de bouger, etc., etc. Et je suis pas attaché, en fait, à un seul endroit. C'est-à-dire que j'étais attaché à où j'ai grandi, où j'ai habité. Et en fait, j'ai tellement déménagé depuis, j'ai déménagé 4 fois depuis, que, bah, en fait, mon cerveau a compris que là où j'habite, c'est pas important. Ce qui est important, c'est avec qui je passe mes moments et ce que je dégage, en fait. Et c'est ça, en fait, la valeur d'un homme ou d'une femme. C'est pas ce que tu montres sur les réseaux sociaux. Et je sais que c'est une tendance qui va se développer petit à petit. Et c'est super important. Et moi, c'est quelque chose que je pousse depuis longtemps. C'est être toi-même. Enfin, je le dis, je le redis encore. J'avais fait un podcast quand j'étais à Boston, mais sur la richesse, etc. Mais c'est pas ça, la vie, les amis. Les amis, c'est pas d'aller au resto tout le temps. Et d'ailleurs, personne n'en parle, mais ces mecs-là qui sont à Dubaï, mais je dis Dubaï, mais on s'en fout, il y a les mêmes aux États-Unis, à Miami, mais ces mecs-là, mais qu'est-ce qu'ils foutent de leur journée ? C'est-à-dire que, ok, ils travaillent comme des oufs, mais pourquoi ils sont toujours entre mecs ? Pourquoi ? Ils n'ont pas de copines, ils n'aiment pas passer du temps tranquille avec eux-mêmes. Pourquoi ils sont toujours entre mecs ? Il n'y a que des mecs, je ne sais pas ce qu'ils font. Moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que de temps en temps, évidemment, moi, je sors avec mes potes, c'est cool, c'est sympa. Mais eux, c'est tous les soirs, ces mêmes personnes sont entre mecs. Et que entre mecs, avec les mêmes personnes. Putain, mais c'est chiant, quoi. C'est chiant. Et vraiment, je ne comprends pas. Et bref, il faut vraiment que vous compreniez que aujourd'hui, la personne que tu es en tant que qu'humain et la valeur que tu dégages, c'est malheureusement, c'est pas avec de l'argent, c'est pas avec une grande villa, c'est pas avec ce genre de choses que tu vas progresser. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que je pourrais louer des Lamborghini, je pourrais louer des Rolex, mais ça m'intéresse pas. Je préfère mettre mon... Vous savez, moi, je préfère mettre mon argent. Je préfère mon argent dans les cryptos, dans la bourse. Et là, je suis en train de staker pour investir en immo. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. C'est-à-dire que je m'en fous que les gens pensent que je suis pauvre. Mais pensez ça, ça me va très bien. Ça me va très bien, comme ça, personne ne va me faire chier. Et je peux vous assurer, hein, que quand vous commencez à mettre des trucs de lambeaux, etc., ça ne fait pas de vous un entrepreneur. Et surtout, ça ne vous attire que des emmerdes. Surtout en France, tout le monde va essayer de vous craquer. Et surtout, dans vos DM, vous allez vous avoir des tocards finis, mais vous n'avez même pas idée, quoi. Des tocards qui ne savent même pas parler français, qui ne savent même pas que 1 et 1, ça fait 2. Enfin, bref. Et beaucoup de personnes, en fait, veulent cet objectif en disant « Oh, ça a l'air trop bien d'être entrepreneur. » Mais non, mais avant d'avoir le shine, tu vas te taper des emmerdes de ouf. Et moi, franchement, je le dis, mais là, c'est important de le comprendre. Mais toutes les personnes qui sont passionnées de montres, il y en a, de voitures, etc. Il y en a. Kiffez votre passion, c'est important. Mais le fait de vouloir une Lamborghini parce que tout le monde a une Lamborghini, ou maintenant une Rolls-Royce parce que tout le monde a une Rolls-Royce, ou même d'habiter à Dubaï parce que tout le monde veut habiter à Dubaï, c'est ridicule. Et encore une fois, je le dis à chaque fois, c'est important, mais J'ai rien contre Dubaï à proprement parler. Je suis sûr que la ville, je vais y aller, je vais kiffer. Et je comprends pourquoi les gens veulent y habiter. Je parle juste des personnes qui sont. Et moi, j'ai une partie de mon équipe qui est là-bas et qui ne sont pas du tout comme ces gens-là. Donc, il n'y a rien à voir. Mais c'est juste que c'est ce genre de personnes dont je parle. Et vous en faites pas. J'ai les mêmes à Miami, j'ai les mêmes à Los Angeles. Il y a les mêmes partout, d'accord ? C'est toujours ce stéréotype de fake it until you make it. Ok ? Fake it until you make it. Et encore une fois, ça dépend ce que les gens veulent. Il y a des gens qui sont très contents d'avoir leur studio en face, studio donc avec une chambre en face de leur Palm Jumeirah ou Jumeirah, je sais pas comment on dit, à Dubaï. Ils sont très contents comme ça. Ils payent 5000 balles le studio ou la chambre. Ils sont super contents. Bah, moi perso, c'est pas ma vision de la vie. Moi, je préfère avoir une vision un peu plus conservatrice et de pouvoir développer mon net worth plutôt que de développer mon lifestyle. C'est-à-dire que honnêtement. On arrive à un point, et ça j'en ai déjà parlé plein de fois quand j'étais à Boston, mais on arrive à un point, les amis. Donc quand on fait de l'argent, c'est un enfer d'aller tous les soirs dans un restaurant. Et je l'ai fait. Je l'ai fait quand j'ai emménagé à Orlando. Tous les soirs, j'allais dans des restos. Je lâchais entre 3 à 4 000 balles de restaurants par mois. Donc je l'ai fait. J'ai des plus beaux restaurants des États-Unis, etc. Je les ai fait. C'est chiant, hein. C'est chiant. C'est en termes de plaisir personnel, et ça c'est vrai que je parle pas beaucoup moi de mindset, etc. Parce que moi en fait mon mindset, j'ai jamais eu à le travailler parce que je l'ai travaillé en grandissant avec le basket. Mais hey, en vrai, qu'est-ce que c'est chiant quoi en termes de faire un petit plat chez toi tranquille, soit avec tes amis, soit tout seul, soit avec ta copine ou autre. Ou ton copain, hein, en fonction de vous, versus aller tout le temps au resto. Évidemment, j'adore le resto. Moi j'adore manger, j'adore le resto, c'est bien de temps en temps. Putain, tous les soirs, c'est relou, hein. C'est vraiment relou. Et moi, je le dis, grâce à mes business, grâce à ceux qui me suivent aussi sur Travel Hacking, vous savez, parce que je documente tout, vous savez que je vis, dès que je voyage, je vis quand même dans des endroits luxueux. Et j'adore ça. Franchement, j'adore. Personne n'aimerait pas, je peux vous l'assurer. Je connais personne qui dira, moi, je suis pas chaud, ça me dit pas trop. Non, tout le monde aime ça. Mais vraiment, là, la dernière fois, quand j'étais à Atlanta, incroyable la suite, etc. J'ai trop bien travaillé. Les équipes de l'hôtel se sont trop bien occupées de nous. C'était génial. Vraiment, c'était un des meilleurs hôtels que j'ai fait. Je m'y attendais vraiment pas. Mais putain, qu'est-ce que je suis content de rentrer chez moi, quoi. C'est sympa, c'est cosy, t'es chez toi, t'es tranquille. Putain, c'est bien. Et moi, ça me fait un peu penser à quelque chose qu'on dit souvent, c'est dans des couples, quand l'homme ou la femme rentre toujours très tard le soir. Alors oui, peut-être qu'il a beaucoup de boulot, mais quand c'est tout le temps, en général, c'est que ça se passe pas bien à la maison. Et toutes ces personnes qui ont besoin d'aller acheter, moi ça me fait marrer quand je vois des entrepreneurs avec des sacs très souvent Dior, Vuitton, Balenciaga, etc. Je me dis putain mais waouh, c'est waouh, tu vois, c'est waouh, et c'est pas de la jalousie parce que moi j'en ai rien à foutre de ce genre de marque, mais c'est waouh, mais qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux de mal-être qu'ils ont besoin de ressortir. Et c'est trop important, quoi. C'est trop important de se dire... En général, les actions des personnes, ça traduit quelque chose. Et donc, toutes les personnes qui sont toujours dehors, qui sont jamais chez eux, etc., qui sont jamais seules, qui ont besoin de dépenser à fond, il y a un mal-être intérieur. Qu'ils n'en parlent pas, mais il y a un mal-être intérieur. Et je peux vous assurer que c'est pas ça, la vie. La vie, c'est pas... Aujourd'hui, est-ce que je vais m'acheter le dernier sac Balenciaga ou je sais pas quoi. Encore une fois, j'y connais rien, moi. Ces marques-là, ça m'intéresse pas. Mais c'est pas ça, la vie. La vie, c'est... Assieds-toi chez toi, dans ton canapé. Est-ce que t'es heureux? Est-ce que t'es content de ta journée? Ça, c'est la vie. Ça, c'est le bonheur. Et moi, je parle beaucoup... À la base, quand j'ai créé Blog Riche, je me souviens que j'avais fait cette description qui était très mal copyrightée, mais j'avais fait cette description. C'était en 2010... Attends, 2010... 2017. Et j'avais fait... Blog Riche, c'est pas juste être riche avec de l'argent. Le but de Blog Riche, c'est d'être riche en amour, riche en bonheur. Riche en liberté et riche évidemment avec l'argent. Et pour moi, c'est ça la clé de la réussite. C'est d'être heureux. Et t'es peu heureux quand tu as besoin d'assouvir ton bonheur avec des dépenses quelconques. D'accord ? Pour moi, t'es heureux quand tu as besoin de rien. Et j'ai vu un entrepreneur qui est un ami, qui habite à côté de chez moi, qui a mis une story l'autre jour. Et j'aimerais que tu médites dessus. Cette story, c'était quand tu deviens riche, tu remarques que les meilleures choses dans la vie sont gratuites.
Merci à toi et à bientôt.